ce matin, j'avais vraiment à cœur de partager avec vous le fait de garder notre cible, de garder ta cible, de toucher ta cible, ou un deuxième titre aurait pu être « Reste focalisé sur ce que Dieu t'a montré ou sur ce que Dieu t'a dit. Reste focalisé, touche ta cible. » On perd trop de temps, on perd trop de temps et il y a trop de cibles que Dieu voulait toucher au travers de toi qui restent, ben, qui restent là, qui restent dans le néant, dans le rien, dans le... Elles attendent qu'il y ait quelqu'un qui les touche. La Bible dit dans Éphésiens, je vais le dire plusieurs fois ce matin, je vais le lire plusieurs fois ce matin, mais je veux le lire parce que je crois que c'est important qu'on se le matraque bien dans notre esprit. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, vous connaissez ce verset normalement par cœur si vous êtes chrétien depuis une année. La Bible dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés pour de bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage, pardon, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je le répète et je prie maintenant que le Saint-Esprit imprègne chacun des mots sur notre esprit. Nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, c'est très important ça, en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La vie, c'est une histoire de cible. La vie, c'est une histoire d'accomplissement. La vie, c'est une histoire de saisir et obtenir tout ce que Dieu a prévu pour nous. Lorsque le serpent est venu dans le jardin, qu'il a fait chuter, pécher Adam et Ève, quelque chose est entré dans le monde. Vous connaissez l'histoire, la mort est entrée, la mort spirituelle est entrée dans le monde, mais c'est surtout par un moyen qui s'appelle le péché. Le mot péché en hébreu signifie manquer la cible. En d'autres mots, il y a une cible générale pour chaque être humain, c'est d'être connecté à Dieu. Chaque être humain sur cette terre est créé pour être connecté à Dieu. C'est pour ça qu'il y a dans l'être humain cette dimension spirituelle. Nous sommes tous spirituels, même ceux qui croient qu'ils ne le sont pas. Il y a de la spiritualité chez chaque personne. Pourquoi ? Parce qu'il y a une part de nous qui doit être connectée à Dieu. Et l'ennemi fait tout pour que nous passions à côté de cette cible-là. Mais la Bible nous dit, on l'a lu ensemble dans Éphésiens chapitre 2, que lorsque nous sommes en Christ... Donc tu as retrouvé ta cible, tu es reconnecté avec Dieu. Le péché ne te fait plus passer à côté de la cible. Lorsque tu es reconnecté à Dieu en Christ, Dieu a préparé des œuvres. En Christ, Dieu a préparé pour nous des œuvres. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres qui sont là, qui nous attendent. Et lorsque je rentre dans ma vie en Christ, elles s'activent. Elles ont été préparées de toute éternité, la Bible dit. Dieu n'a pas fait un plan rapide. C'est pas lorsque tu t'es converti que Dieu s'est dit « punaise, il se convertit, il faut vite imaginer un truc ». Non, Dieu savait, connaissait ta route et Dieu a préparé des œuvres dans son éternité. C'est-à-dire que le jour où Dieu, ça c'est même pas expliqué avec des mots, mais le jour où Dieu a pensé à toi dans l'éternité, c'est-à-dire dans l'éternité, donc ça n'a pas de commencement le jour où Dieu a commencé à penser à toi. Eh bien, ce jour-là, dans l'éternité, Dieu a préparé un plan pour toi. Des œuvres préparées d'avance, pourquoi ? Pour que tu puisses commencer à les pratiquer, pour que tu puisses y entrer, pour que tu puisses les saisir et les vivre. Donc ces œuvres-là n'ont pas été... Comment dire ça ? Ces œuvres-là ont toujours été là. Est-ce que vous me comprenez ? Les œuvres que Dieu a préparées pour toi ont toujours été là. Avant que tu naisses, elles existaient déjà et elles t'attendaient. Pourquoi ? Parce qu'elles sont préparées d'avance. Elles sont préparées avant. Et toi, tu arrives, tu rentres en Christ et tu découvres ces œuvres afin que tu puisses les pratiquer. Pas pour que tu les connaisses, mais pour que tu puisses rentrer dedans. Pourquoi ? Parce que toutes les œuvres que Dieu a prévues pour toi. Et lorsqu'on parle d'œuvres, je veux vraiment nous libérer du côté faire des œuvres. Les œuvres, c'est quoi ? C'est faire la volonté de Dieu. On a tous des choses dans lesquelles Dieu nous attend pour faire sa volonté. Mais ces choses-là ont été préparées dans l'éternité, donc elles ont le caractère éternel. Donc quand tu les pratiques sur cette terre, parce que tu es enfant de Dieu, tu libères sur cette terre des dimensions d'éternité. Est-ce que vous êtes là ? C'est pour ça que c'est extrêmement important de comprendre comment Dieu fonctionne. Je crois, frères et sœurs, que souvent nous sommes vaincus, abattus et dépouillés simplement parce que nous ne savons pas comment Dieu fonctionne. où nous ramenons Dieu à notre manière de fonctionner à nous. Dieu est différent de toi et de moi. Nous sommes faits à son image, mais Dieu n'est pas comme toi. Dis à personne à côté de toi, tu n'es pas Dieu. Et ça me rassure, tu peux y rajouter, et ça me rassure. Et c'est tellement fondamental et important. Donc les œuvres connectées à notre salut, elles sont préparées de toute éternité. Donc c'est-à-dire qu'elles nous attendent, elles sont là. Et lorsque je les manifeste, lorsque une femme ou un homme répond à l'appel de Dieu pour sa vie, il répond à quelque chose que Dieu avait préparé dans l'éternité. Ce n'est pas un jour, vous savez, on a une expression maladroite, on dit « j'ai reçu l'appel ». Non, tu n'as pas reçu l'appel, tu as découvert l'appel. Mais tu le reçois pas. L'appel a toujours été là. Jérémie dit quoi ? Avant que je naisse, Dieu dit, avant que tu sois formé, je t'avais établi prophète. Il était prophète avant d'exister. Pourquoi ? Parce que c'était les œuvres préparées d'avance. C'était ce que Dieu avait pensé dans l'éternité passée. Et donc, lorsque je les découvre, lorsque j'en prends conscience, comment tu en prends conscience? Des fois, c'est en lisant la parole. Des fois, le Saint-Esprit te parle. Des fois, tu pries. Des fois, quelqu'un te le dit. Et puis, une autre personne te le dit. Puis, des fois, il y a 15 personnes qui te le disent. Tu te dis peut-être que s'ils me le disent tous, c'est peut-être que c'est vrai. Mais, et en tout cas, qu'importe. Mais ces choses, tu les découvres. Et à partir du moment où tu les découvres, tu es appelé à les pratiquer pour libérer la vie. Nous mettrons trop d'énergie à vouloir pratiquer nos œuvres. Et quand je pratique mes œuvres, il y a peu de vie. Et on est découragé. Est-ce que ça vous arrive à vous de faire des choses qui produisent peu? Bon, priez pour moi parce que moi ça m'arrive. Mais en réalité, nous produisons peu souvent parce que nous ne sommes simplement pas dans notre cible. Alors rappelez-vous ce que j'ai dit au début. Le diable est venu pour faire sortir Adam et Ève de la cible, de les déconnecter de leur relation avec Dieu. Mais le diable existe encore aujourd'hui pour te faire sortir de ta cible. Parfois, le diable n'a rien à faire. Tu sors tout seul de ta cible comme un grand. Moi, je crois que nous sommes plus forts que l'ennemi dans nos propres vies. Des fois, on met beaucoup d'emphase, le diable, nanana. Mais tu sais quoi ? David a fait une prière incroyable. Il a dit à Dieu, fortifie ma volonté. Pourquoi il a dit ça ? Parce qu'il savait qu'il y avait des choses dans sa vie qui dépendaient de lui. Dis à la personne à côté de toi, ça dépend de toi. Il y a des choses qui dépendent de nous. Et donc, ces œuvres, ces appels, ces promesses, ces dons, toutes ces choses que Dieu a préparées, qui sont préparées pour toi, pour le monde, pour que la vie de Dieu jaillisse, elles sont là, elles marchent avec toi, et toi tu dois apprendre à les considérer, à les regarder, mais surtout à focaliser tes yeux sur ce que Dieu t'a dit. Je bénis Dieu pour les promesses que Dieu a fait à Romaric, mais je vais vous dire quoi, je m'en fiche. Ce qui est important, c'est les promesses que Dieu m'a fait à moi. Parce que si lui est focalisé sur ses promesses et qu'il les atteint, il sera en bénédiction pour ma vie. Et si moi, j'atteins mes promesses, je serai en bénédiction pour sa vie. On n'est pas là pour comparer nos promesses. On n'est pas là pour faire des concours de promesses. Est-ce qu'on peut comparer l'éternité avec l'éternité? Les deux, c'est l'éternité. C'est juste la forme qui change. Certains seront des apôtres Paul qui vont faire des choses incroyables et qui vont payer des prix incroyables. Parce que les choses incroyables, on le veut tous, mais... Mais l'apôtre Paul ne s'est pas levé un matin en disant « Tiens, j'ai décidé, je serai l'apôtre Paul. » Vous savez quoi ? Il était apôtre Paul avant même qu'il naisse. C'était là, ça l'attendait. Et un jour, il l'a découvert. J'ai dit tout à l'heure, Jérémie a découvert qu'il était prophète. Ça l'attendait. Et on regarde dans la parole de Dieu, je pense à ces femmes qui la Bible dit, qui assistaient le ministère de Jésus financièrement. Juste financièrement. Eh bien, c'est pas un matin où elles sont levées, elles se sont dit, tiens, si on était généreuses, ça les attendait. Et il y a toutes sortes de choses qu'on voit dans la parole de Dieu. Moïse, les amis, Moïse. La Bible dit que Moïse savait que l'Éternel donnerait la liberté à son peuple par sa main. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué un Égyptien. Vous connaissez l'histoire? Ça a mal fini ce jour-là. Il a fui pour sa vie, il a caché l'Égyptien sous le sable et il s'est retrouvé dans un désert pendant 40 ans à nourrir des brebis qui n'étaient pas les siennes. Pendant 40 ans. Mais il avait beau essayer de faire ce qu'il voulait, Même s'il était élevé en tant que fils de Pharaon, même s'il était perdu dans son désert, même s'il ne voulait plus, même s'il avait peur, il était le libérateur d'Israël. Tu ne peux pas fuir qui tu es. Les œuvres préparées d'avance, tu peux les abandonner. Mais si tu reviens à Dieu, Dieu va te parler toujours de la même chose. On va voir comment ça va aller ce matin, mais je veux dès à présent attaquer un mensonge monumental dans la vie des croyants. Tu ne peux pas changer les promesses de Dieu toi-même sur ta vie. Tu ne peux pas décider que les promesses ou les œuvres que Dieu t'a dit de faire, tu les changes. Ce n'est pas toi qui choisis. C'est Dieu qui décide. La Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Lévi, il était au bureau des péages, Matthieu. Il était au bureau des péages. Lui, il croyait qu'il était là pour prélever les impôts, que c'était ça. C'était son appel. Jésus est passé, il lui a dit, suis-moi. Le jour où Jésus lui a dit, suis-moi, il a réveillé en Matthieu qui il était vraiment. Tu ne peux pas être qui tu dois être en enlevant Dieu de ta vie. Donc, tu as besoin de Dieu. Mais une fois que Dieu t'a montré qui tu étais, tu as besoin de choisir d'y marcher, de t'y attacher, d'y courir, de le saisir et de le vivre. Je refuse une vie où Dieu me fait des promesses que je ne vis pas. Si tu ne vis pas les promesses que Dieu t'a faites, des fois c'est pas le temps, question de timing, mais des fois c'est parce que on ne comprend pas comment Dieu fonctionne. Je n'ai jamais vu autant, et vous savez, je me mets dans le paquet parce que je l'ai été parfois, je n'ai jamais vu autant d'instabilité dans l'église que dans l'église qui est conduite par le Saint-Esprit. Être conduit par le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire être instable. Dis à la personne à côté de toi, être conduit par l'Esprit, ce n'est pas être instable. Je t'explique pourquoi. Parce que le Saint-Esprit te rappelle ce que Jésus t'a dit. Il te rappellera tout ce que je vous ai dit. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de te rappeler ce qui a été décidé dans le cœur de Dieu à ton sujet. Et Dieu ne change pas d'avis à ton sujet. Toi, des fois, tu changes d'avis à ton sujet parce que tu te déçois. Les jours où je pêche, je suis déçu de moi-même, je change d'avis. Je suis plus digne. Les jours où ça va bien, je suis en accord avec moi-même. Reste tranquille. Les jours où ça va bien, c'est que tu n'es juste pas conscient des péchés que tu as faits. Mais t'en fais tout le temps. Dans tes pensées, dans tes réactions, t'en fais tout le temps. Dis à la personne à côté de toi, oui, tu es un chantier à ciel ouvert. Tu es un chantier à ciel ouvert. Et ça, c'est la vie. Et c'est pour ça qu'on a besoin de Jésus. C'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit. Parce qu'on est des chantiers à ciel ouvert. Parce qu'il y a plein de choses qui sont en travail. En ce moment même, ça travaille partout dans ta vie. Dieu travaille ton amour, Dieu travaille ta foi, Dieu travaille ta patience, ta persévérance, ça travaille partout. C'est comme ça que Dieu fait. Mais ça n'altère pas les promesses. Ça n'altère pas les œuvres. Dieu aime travailler avec les choses folles de ce monde. Donc, je suis un bon candidat. Chose folle, bon candidat. Il méprise les choses sages aussi. Donc, quand tu te crois trop sage, attention. Mais ce que je veux vous dire, c'est que être spirituel, ça ne signifie pas être instable. Dieu peut approfondir ce qu'il t'a déjà dit. Dieu peut te donner des autres angles de ce qu'il t'a déjà dit. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu ne passe pas sa vie à se contredire. Tu ne peux pas être appelé un jour à être alpiniste et le lendemain, tu décides de t'occuper des bœufs. Et 3 jours après, finalement, j'ai à cœur les personnes âgées. Attends, assieds-toi, frère, faut que tu m'expliques. Spiritualité n'est pas instabilité. Je ne parle pas des étapes que Dieu utilise parce que la révélation est progressive. Parfois, on ne sait pas tout et heureusement qu'on ne sait pas tout. Pour aller à Canaan, Abraham, Dieu d'abord l'a amené à Charan. Et c'est à Charan qu'il a eu la compréhension de Canaan. Donc des fois, tu vas d'étape en étape pour comprendre un peu plus ce que Dieu attend de toi. Mais en tout cas, le mouvement est toujours le même. Parce que pour aller là, il faut aller par là. Même si Dieu fait comme ça en général. Parce qu'il aime cette manière de faire. Mais donc ce que je veux vous dire, c'est que tu ne peux pas croire ce mensonge de l'ennemi ou ce mensonge de toi-même que parce que ça fait trop longtemps, la promesse est devenue caduque. Il n'y a aucun exemple dans la parole de Dieu. Frères et sœurs, je suis sérieux. Il n'y a aucun exemple dans vos Bibles de promesse qui est devenue caduque. Dieu dit et la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Que tu sois d'accord ou pas d'accord. Donc l'ennemi peut faire ce qu'il veut, il peut mettre des délais, tout ce qu'il veut. Par contre, toi, tu peux abandonner les promesses. Mais je veux te dire une chose, c'est que c'est une chose de vouloir abandonner les promesses, c'est autre chose de dire « Dieu a abandonné sa promesse dans ma vie ». Dieu n'abandonne pas sa promesse. Dieu, lorsqu'il te dit quelque chose, lorsqu'il te promet une percée pour une maison, lorsqu'il te dit qu'il sera avec toi, des fois Dieu te dit « Je serai avec toi dans la fournaise ». Ce n'est pas une bonne promesse. Préférez qu'il dise « Je serai avec toi sur la plage ensoleillée ». Ça, c'est Dieu qui choisit comment il fonctionne. Mais en tout cas, il sera avec toi. Que tu sois bien ou pas, que ce soit un jour de grande spiritualité ou pas, vous croyez que David, que Samuel, que la Bible dit qu'Élie était de la même nature que nous, vous croyez qu'ils avaient toujours des journées incroyables? C'est sûr que non. Il y a des jours où tu te sens pas bien, où t'es pas un héros de la foi. Il y a des jours où t'es plus proche du zéro que du héros, hein. Mais même dans ces jours-là, les promesses sont actives. Parce que ça ne dépend pas de nous. Nous devons nous libérer de l'autre. Je sais, j'ai même pas les mots pour dire ça, mais que Dieu nous aide, que le Saint-Esprit m'aide, que le Saint-Esprit nous aide à nous libérer de cette manière d'essayer de comprendre Dieu avec notre intelligence, avec notre esprit méritoire. Si tu veux appréhender les choses de Dieu par le mérite, tu te trompes. Abraham, les amis, Abraham, votre père à tous. Notre père Abraham, le père de la foi. À quel âge il a été papa? Eh oui, 100 ans. C'est un bon âge pour commencer à fonder une famille. Vous connaissez son histoire. Dieu lui a promis. Dieu lui a promis. Et qu'est-ce qu'a fait Abraham? Il a cru. Mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Puisqu'à un moment donné, la Bible dit qu'il s'est regardé. Et il a vu son corps qui vieillissait. Le problème commence quand tu commences à te regarder. Quand tu commences à te regarder, on est dans la galère. Parce que tu n'es pas à la hauteur. Il s'est regardé et c'est là où il a eu son idée fameuse. D'avoir un enfant avec sa servante en disant ben, « ça doit être celui-là finalement, le fils de la promesse » et ce n'était pas celui-là. Dieu avait décidé de lui donner un fils, il lui avait dit et Dieu l'a fait. Donc ne crois pas que les promesses peuvent être annulées. Les promesses peuvent être repoussées, les promesses peuvent être mises de côté pour une saison dans ta vie, mais la repentance te repositionne dans les promesses de Dieu. Toujours. Toujours. Si ton cœur a brûlé pour quelque chose et que ça venait vraiment de Dieu, je ne parle pas d'une émotion passagère, parce que des fois nos cœurs brûlent. Maman, à la finale de la Coupe du Monde de foot, mon cœur brûlait. Mais ce n'était pas de Dieu. D'accord? Mais si quelque chose a brûlé dans ton cœur qui venait de Dieu et que pour plein de raisons tu l'as mis de côté, te repositionner dans la repentance va le rallumer. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des œuvres préparées d'avance. Sauf si tu les veux pas, il t'en donne d'autres. Elles sont préparées d'avance afin que tu les pratiques. Et tu as jusqu'à ton dernier souffle sur cette terre pour les pratiquer. Et si tu as une vision de stade, de gens qui se convertissaient avec toi et que tu arrives au crépuscule de ta vie et que tu as 98 ans et que tu as abandonné cette promesse pendant tous les jours de ta vie, peut-être que l'infirmière à ton chevet, c'est ça ton stade. Comprenez ce que je veux dire? C'est que l'onction de Dieu, lorsque Dieu nous donne une promesse, il nous donne la puissance et il nous donne l'onction. Et tout ça, ça nous attend. Dieu nous attend en fait. Quand je comprends ça, je suis libéré de moi-même. Je suis libéré de l'ennemi. Parce que des fois, on donne tellement de puissance à l'ennemi qu'on ne réalise pas qu'on a plus de puissance dans notre vie que lui. Des fois, l'ennemi est au chômage avec nous. Tu te décourages toi-même tellement tout seul qu'il n'y a même pas besoin de te décourager. Des fois, on croit tellement à des mensonges et des manières de voir la vie chrétienne que l'ennemi n'a rien à faire. Tu dois recalibrer ta croyance. Quelqu'un a dit que l'ennemi, un des endroits où l'ennemi aime se tenir, c'est dans l'ignorance. Plus tu es ignorant, plus l'ennemi s'amuse avec toi. Et rappelez-vous une chose, souvent, il nous tente par la parole de Dieu, en nous faisant croire la parole de Dieu, mais déformée. Donc, ce que je veux vous dire ce matin, et j'espère que c'est clair, et je vais arriver à la fin, c'est que tu ne dois pas voir ce que Dieu t'a promis en fonction de toi. Même dans tes mauvaises saisons, les promesses de Dieu sont encore actives. Tu dois refuser les mensonges que tu te construis toi-même. Jésus a dit une chose qui depuis des années me travaille, c'est qu'il a dit « Prenez garde à vos voisins. » Non. « Prenez garde à la saison. » Non. « Prenez garde à vos ennemis. » Non. De nos ennemis, Jésus a dit de les aimer. Il a dit « Prenez garde à vous-même. » Parce que celui qui est le seul capable de détruire la volonté de Dieu dans ta vie, c'est toi. Parce que si les promesses sont préparées d'avance, le libre arbitre que Dieu te donne la possibilité de dire oui ou non tout le temps. Tout le temps. Je prie ce matin pour que tu puisses aller ramasser ce que Dieu t'a dit, que tu le remettes devant tes yeux, pour que tu t'en rappelles toi. Dieu n'a pas besoin de s'en rappeler, il le sait. Toi, tu dois t'en rappeler. Toi, tu dois te rappeler que tout ce que Dieu t'a dit est valide dans n'importe quelle saison de ta vie. Je sais, c'est simple de le croire quand ça va bien, mais là où c'est puissant, c'est de le croire quand ça va pas. Quand c'est dur, quand c'est fermé, quand c'est difficile, quand je souffre, les promesses de Dieu sont oui et amen. Les promesses de Dieu sont oui et amen quand il y a Fabien qui joue et qu'on est à l'église ensemble. Mais elles sont oui et amen même dans les jours où j'ai un mauvais comportement. Dis à la personne à côté de toi, dans tes mauvais jours, c'est oui et amen quand même. Bon, peut-être que vous n'avez jamais de mauvais jours en fait. Alors priez beaucoup pour moi, parce que moi j'en ai de mauvais jours. Des fois, je relis mon cahier, parce que moi j'écris tout ce que Dieu me dit. Des fois, je relis mon cahier et je dis, Seigneur, est-ce que ça c'est encore vrai? Ça c'est dans les jours où je doute. Parce que tout ce que Dieu te dit, c'est oui et amen. Après, il y a des combats du temps. Il y a les combats de la foi. Comprenez ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas de combat. Si c'est une promesse de Dieu, en vrai, il y aura des combats parce que c'est une promesse de Dieu. Mais l'accomplissement dans nos vies dépend de quoi? Souvent, un accomplissement, alors il y a la promesse, il y a la direction, c'est donné. Mais après, ça dépend de quoi? Du combat de la foi. Je dois continuer à croire. Ça, c'est un combat, la foi. Je combats pour ça. Des fois, c'est la persévérance qui m'ouvre la porte de la promesse. Non? Des fois, c'est parce que j'ai persévéré jusqu'à ce que boum, la porte s'ouvre. Mais des fois, une des raisons pour laquelle la porte ne s'ouvre pas, c'est parce que j'ai abandonné ce que Dieu m'a dit. Je ne suis plus dans ma cible. Je suis dans une autre cible. Il y a une tentation puissante qui est de changer la cible. On va regarder juste ensemble 5 tentations puissantes et j'arrive à la fin. Il y a plusieurs tentations concernant la cible. La première, c'est la tentation de l'accomplissement partiel. Vous savez, la Bible dit que Jésus a un ministère incroyable. Quand même, non? Jésus, quoi. 3 ans et demi, la Bible dit que les livres que la terre pourrait contenir ne suffiraient pas à décrire ce que Jésus a fait. 3 ans et demi, pendant 3 ans et demi, Jésus accomplit son ministère de fils pour préparer le salut. Mais ce qui est puissant, c'est que il y a un moment, et c'est le seul moment dans toute sa vie, où on voit presque une tentation d'abandonner. C'est à Gethsémané. Connaissez cette prière, hein? Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ta volonté. C'est puissant ça, ça veut dire que Jésus dit, qu'est-ce que Jésus dit? Pas ma cible, ta cible. Pas ce que je ressens, ce que tu as dit de toute éternité sur moi. Mais il y a une tentation que l'ennemi peut placer sur notre route, c'est la tentation de l'accomplissement partiel. Jésus à Gethsémané a accompli 99%. Il reste 1%. 1%. Mais combien savent que 1% en moins, ça change tout? Ça change tout. Parce que c'est ce 1% qui va rendre l'œuvre parfaite. Et je sais pas où tu en es dans ta vie, mais parfois, on est rentré dans la promesse, on a couru dans la promesse, on a couru dans notre cible, on a commencé à bâtir dans notre appel, commencé à bâtir dans notre cible, commencé à mettre en place des choses par rapport à ce que Dieu nous avait dit, et des fois on s'arrête. Parce qu'on estime qu'on est arrivé. 99%, ce n'est pas suffisant. Tu dois aller au 100%. C'est une bonne nouvelle, ça. Pas de retraite dans la vie spirituelle. Donc, la tentation de l'accomplissement partiel. La deuxième tentation, c'est de remplacer la promesse. J'en ai parlé avec vous déjà. C'est l'histoire d'Abraham. Abraham a voulu remplacer la promesse. Abraham a réfléchi. Il s'est dit, je suis trop vieux, donc c'est fini. Donc, je prends une autre solution. Et ça, c'est toi et moi. Quand tu réfléchis et que tu dis, c'est trop tard, je suis trop vieux, j'ai perdu trop de temps, c'est trop fermé, je suis plus capable. Là, tu te mets à dire que la promesse n'est plus valide, que Dieu s'est trompé et que tu vas la remplacer par ta promesse à toi. Non, je veux te le dire de la part du Seigneur, Isaac naîtra. Isaac naîtra, que tu sois d'accord ou pas, si tu choisis de rester dans la main de Dieu, Isaac naîtra même si tu as 100 ans. La tentation de remplacer la promesse. La troisième, c'est la tentation de la promesse au rabais. Ne te contente pas de peu dans ta vie. Vous savez, quand Joseph a été vendu par ses frères, il arrive dans la maison de Potiphar. Potiphar est le ministre de la défense de l'époque. La Bible dit que c'était un homme extrêmement riche. Il avait surtout la capacité de gérer les armées de Pharaon. Et Joseph va être positionné par Potiphar comme son égal. Parce que Potiphar dit à Joseph, fais ce que tu veux avec mes biens, sauf mon épouse. Nous, on lit cette histoire rapidement. Mais peut-être, moi, pas peut-être, j'en suis convaincu. Si tu prends toutes les étapes de la vie, de cette saison de la vie de Joseph, on aurait pu croire que c'était l'accomplissement de ses rêves. Parce qu'il était en position de domination. Oui, il était encore serviteur, mais même quand il va être avec Pharaon, il sera toujours serviteur de Pharaon. Hein. Mais il était serviteur, mais il est serviteur d'un homme puissant qui lui donne toute sa puissance, qui lui donne ses finances. Il aurait pu croire que c'était ça. Et il y a des moments où l'ennemi va vouloir te faire croire que c'est ça. Mais Potiphar, ce n'est pas la maison de Pharaon. Potiphar, ce n'est pas la porte que Dieu va utiliser pour sauver tes frères, pour sauver ta famille, pour sauver une nation. Vous savez que l'histoire de Joseph, c'est pas simplement Joseph. C'est que la promesse d'Abraham, il est dit dans les psaumes que la promesse d'Abraham s'est accomplie en Joseph. La multitude a existé au travers de Joseph. Donc le jour où Joseph est dans la maison de Potiphar, ce n'est pas juste une question de sa propre vie simplement, c'est littéralement la promesse générale de Dieu qui est attaquée. Et parfois on peut se dire, c'est déjà bien. Bon, Dieu m'a promis que ma famille se convertirait, ok, il y en a deux sur cinq, c'est déjà bien. Hein? Dieu m'a montré que je devais bâtir telle œuvre sociale, bon, j'ai aidé quatre voisins, c'est bien. Mais c'est ce que Dieu t'a dit ou pas? Si la promesse sert une personne, mais si c'est sert une multitude. Tu choisis pas. Comprenez ce que je veux dire? Non, attention à la tentation de la promesse au rabais. La quatrième, c'est attention de changer toi-même de cible. J'en ai parlé un peu, mais je veux juste vous faire penser à l'apôtre Paul. On lit souvent ces textes rapidement, mais Paul, la Bible dit qu'un jour, alors qu'il est accusé par les Juifs d'avoir fait rentrer un Grec dans le temple. Vous connaissez l'histoire, il y a toute la folie qui prend place. Et là, il est mis en jugement. Et là, Paul, la Bible dit qu'il va faire appel à l'empereur. Vous connaissez cette histoire? Il fait appel à l'empereur. Il dit, je veux aller devant César. Et là, je ne sais plus quel est le roi à ce moment-là. Romaric, c'est... Bref, il y a un roi qui est là. Il est en deux visites, là. Il a été Candace et l'autre, son mari, c'est je ne sais plus. Bref, le roi qui est là va dire, mais si cet homme l'avait voulu, il aurait pu être remis en liberté de suite. Il n'y a rien à lui reprocher. Vous connaissez ce texte-là? S'il avait voulu, il aurait pu. S'il avait voulu, mais jamais de la vie, Paul aurait choisi la liberté. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu lui avait dit, tu seras mon témoin, même devant César. Alors Paul a dit, j'irai devant César. La tentation de changer de cible. Le chemin qui lui était proposé aurait été plus simple, mais lui, il a choisi la cible de Dieu à la simplicité. Et je termine par ça, et c'est la dernière chose que je partage avec vous, et j'arrête là. C'est la tentation de faire beaucoup au lieu de faire l'essentiel. Des choses à faire, il y en a plein. Du temps à perdre, il y en a en masse. Ça vous arrive à vous d'avoir l'impression d'avoir perdu du temps dans une journée ? Si on faisait la somme de temps perdu sur une vie, aïe aïe aïe. Bon, la bonne nouvelle, c'est que même le temps perdu, Dieu est capable de le racheter. Mais une chose est sûre, c'est que ce qui est important, ce n'est pas de faire des choses. Ce qui est important, c'est de faire la chose. Il y a des gens qui ont une grande capacité à porter, à qui Dieu a promis beaucoup de choses. Il y en a, Dieu leur a promis une chose. Qu'importe ton cas, fais ce que Dieu te demande. Mets ton énergie dans ce que Dieu te demande. Mets ton temps dans ce que Dieu te demande. Ce n'est pas faire des choses qui comptent. Nous, on pense que plus on fait, plus ça compte. Vous savez, vous connaissez l'histoire en plus, elle est redoutable cette histoire dans les évangiles. Marthe et Marie. Marthe, Marthe, tu t'agites pour peu de choses. Une seule chose est importante. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Quelle est l'histoire ? Ben, Marthe fait tout, Marie fait rien. Non, c'est pas ça l'histoire. Marthe fait tout, Marie est assise, elle écoute. Ouais, mais c'était ça qu'elle devait faire. La tentation d'en faire beaucoup. Je crois que Dieu veut nous recentrer. Je parle pas de ne pas avoir de vie, vous comprenez ce que je veux dire ? Moi, je rentre de vacances, là. Tu peux prendre des vacances, tu peux aimer tes enfants, ta femme, tu peux aller à la plage, profiter. Ça n'a rien à voir avec ça. Je parle d'être tellement distrait par plein de choses et par plein de bonnes choses. Parce que ce serait trop simple, faire la part des choses entre le bien et le mal, bon... Le plus dur parfois, c'est entre le bien, le très bien, le très très bien et le divin. Des choses à faire, il y en a plein. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse juste se réaligner avec notre cible. Je veux prier pour vous pendant quelques instants. Si vous voulez bien, fermez vos yeux. Premièrement, je veux déclarer Éphésiens 2:20 sur ta vie. Tu as été créé, tu es son ouvrage, tu es son ouvrage. Tu as été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Que Dieu a préparées d'avance pour toi afin que tu les pratiques. Et ma prière pour toi ce matin, c'est que tu puisses être libéré de cette façon de penser que j'ai adressée toute la première partie du message. De croire que ce que Dieu dit a une date de péremption. Ce que Dieu dit ne change jamais. Avant de parler, Dieu réfléchit, hein, les amis. Et Dieu a réfléchi dans son éternité lorsqu'il t'a parlé à toi. Sa parole est éprouvée pour toi. Sa parole a du poids pour toi. Je ne connais pas ta saison. Je ne connais pas le temps que tu as peut-être perdu. Je ne connais pas peut-être même les péchés avec lesquels tu luttes. Je ne connais pas peut-être le niveau de ton découragement. Mais je veux te dire une chose. Dieu n'a pas changé d'avis à ton sujet. Sa promesse est toujours oui et amen. Et elle t'attend. La deuxième chose que je veux te dire, c'est que tu es la clé. Tu es la clé de l'accomplissement des promesses. Refuse la tentation de l'accomplissement partiel ou de changer la promesse. Refuse ces choses dans ta vie. Fixe les yeux sur ce que Dieu t'a dit. Dans Habacuc chapitre 2, au verset 2, il est dit ceci: écris la vision afin qu'on la lise couramment. Pourquoi ? Pas pour Dieu, pour toi. Pour que tu te rappelles ce que Dieu t'a dit dans les saisons où tu as envie de tout laisser tomber. La promesse est oui et amen ce matin. Pour toi. Et j'aimerais prier pour chacun d'entre nous. J'aimerais vous inviter simplement là où vous êtes à vous lever. On va se lever tous ensemble. Pas faire d'appel individuel ce matin, mais juste qu'on prie ensemble. Parce que je crois que sa parole est suffisante, elle est puissante. Puissante pour abattre les forteresses qui sont en nous, qui luttent en nous. Oh Jésus, là où tu es, je t'invite simplement à te repositionner, à faire ce que tu dois faire. Peut-être, voici une bonne prière, c'est Seigneur, je veux, fortifie ma volonté. Voilà, ça c'est une bonne prière. La prière de David, fortifie ma volonté. Une bonne prière, c'est aide-moi à me recentrer sur l'essentiel. Une bonne prière, c'est Seigneur, libère-moi des faux raisonnements. Une bonne prière, c'est Seigneur, je veux ramener au devant de la scène tes promesses, tes œuvres que tu m'as déjà dites et qui m'attendent. Voilà une bonne prière. Alors que pendant que Fabien va nous conduire dans un champ, juste là où tu es, tu sais la portion qui est la tienne en fait. Et je prie que tu puisses maintenant la positionner devant Dieu. Ça peut être, Seigneur, je veux reprendre mon appel là où je l'ai laissé tomber, je veux ramener cette promesse. Des fois c'est de dire, Seigneur, rappelle-moi tes promesses parce qu'on s'est tellement éloigné qu'on les a oubliées nous-mêmes. Rappelle-moi tes promesses. Pour d'autres, c'est fortifie ma volonté, Seigneur, fortifie ma volonté. Parce que j'ai été éprouvé dans tes promesses, j'ai été éprouvé dans telle ou telle œuvre, j'ai cru que c'était fini, que c'était passé, que ce n'était plus le moment. Seigneur, fortifie ma volonté. Oh notre Dieu, merci pour ta présence, merci pour ta fidélité, merci pour ta parole. Tes promesses sont parfaites, Seigneur. Tes promesses sont parfaites. Tes promesses sont parfaites. Jésus. Je prie, notre Dieu, qu'il puisse y avoir des résurrections de rêves. Qu'il y ait des réalignements avec tes promesses, des réalignements avec des œuvres que certains ont reçues, qu'ils savent qu'elles sont de Dieu, mais qui sont mises en stand-by pour plein de raisons. Sokoro mara mama mara mama bebe. Sora bara kadi arabara seketi.